I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la saison 2021 de NFL, la 11e saison du podcast Jeune Actu, ça ne s'arrête plus. Bienvenue donc dans les previews 2021, un jour, une preview. Comme l'année dernière, on reprend la même formule, 10 à 15 minutes pour chaque équipe tous les jours pendant les 32 jours qui précèdent la saison. On commence évidemment dans l'ordre inverse du classement de l'an dernier, donc un peu comme la draft, hein, on va commencer par les plus mauvaises équipes et puis on va terminer par le champion. À mes côtés pour cette première pastille, il était déjà là l'an dernier, Grégory Richard. Bonjour.
Salut Alain, salut Lucas, bonjour à tous.
Tu l'as dit à nos côtés, un petit nouveau dans l'équipe du podcast cette année. Vous l'avez déjà entendu un petit peu en fin de saison dernière pendant l'intersaison, mais vous l'entendrez plus souvent cette année, c'est Lucas Vola. Bonjour Lucas.
Salut, j'ai passé le cut, je crois.
Donc, c'est ça,
je suis, passé... je suis ravi. Je suis ravi.
Tu as passé le cut. Toi et Victor Roulier, intégrer l'équipe podcast plus régulièrement. Et on est évidemment très heureux de t'accueillir. On l'a dit, donc on va commencer, messieurs, par le fond du classement. Et donc, le haut de la draft, c'était les Jacksonville Jaguars, une équipe qui n'a gagné qu'un seul petit match la saison dernière, 1-15. On va parler d'ailleurs, hein, puisque maintenant, on ne pourra plus faire 1-15. Il y a plein de bilans qui vont changer avec le 17e match. Donc, plus de 8-8, ça va quand même être aussi le grand bouleversement des pronostics. On ne pourra plus avoir un bilan équilibré.
C'est pour ça que Jeff Fisher est parti plus tôt que prévu, d'ailleurs.
C'est ça, on ne pourra plus faire de 7-9. Donc, les Jaguars, une victoire et les arrivées de l'intersaison. Évidemment, la plus marquante, c'est celle de Trevor Lawrence, le quarterback drafté en première position. Mais il y a aussi eu d'autres arrivées lors de la draft, notamment, tiens, je vais commencer par la draft avec Travis Etienne, le coureur, Tyson Campbell, cornerback, un tackle avec Walker Little, safety André Cisco, quelques autres joueurs dont on parlera. Du côté des free agents, évidemment, l'éternel Tim Tebow est arrivé. Il y a aussi eu des arrivées qui devraient marquer un peu plus au niveau du jeu, notamment Carlos Hyde, le running back, Philippe Dorsett, Marvin Jones, pardon, le receveur, Philippe Dorsett aussi d'ailleurs, Roy Robertson Harris, defensive tackle, Malcolm Brown, defensive tackle, Jihad Ward, Shaq Griffin et quelques autres. Messieurs, cette équipe des Jaguars, évidemment, c'est Trevor Lawrence, c'est aussi Urban Meyer, parce que c'est aussi la très très grosse arrivée de l'intersaison, le coach. Est-ce que Trevor Lawrence et Urban Meyer, c'est suffisant pour qu'il y ait une grosse progression des Jaguars? Quand je dis grosse progression, on va dire 7 victoires. Lucas, est-ce que peut y avoir grosse progression des Jaguars?
J'attendais justement que tu définisses grosse progression, parce que pour moi, je pense qu'il va y avoir progression. En même temps, ils ont fait une victoire l'année dernière, donc c'était pas forcément très difficile. Mais allez, je vais spoiler un peu mes pronostics. J'ai mis 5 victoires, donc je sais pas si tu considères ça comme une grosse progression. Mais en tout cas, je pense que ça peut progresser parce que Trevor Lawrence, forcément, même si on l'a pas vu forcément encore en NFL, parce que le coach, pourquoi pas. Et puis surtout, il y a eu un recrutement assez intelligent. On avait l'habitude des Jaguars qui faisaient des gros recrutements, un coup de gros chèques. Les années précédentes parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Là aussi, ils avaient beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas forcément fait de gros coups d'éclat. Ils ont recruté intelligemment, comme tu l'as dit, et du coup, ça donne des effectifs des deux côtés du terrain corrects. Alors, pas forcément incroyables, mais corrects, notamment en attaque. Bon, alors, on écarte Trevor Lawrence, on va attendre de voir exactement ce qu'il donne, mais tu parlais du groupe de running back. Il y a Carlos Hyde qui est arrivé, Travis Etienne, bon, on peut discuter sur la hauteur de son choix à la draft, mais ça reste un super running back et il va être associé à Robinson. Donc ça peut faire une belle attaque en tout cas, et du coup ça peut amener une progression, je pense.
5 victoires, ce serait déjà 5 fois plus que l'an dernier, donc
C'est pas mal.
Une belle progression. Grégory, est-ce qu'il a le matos pour travailler en attaque, notamment Trevor Lawrence? Lucas a cité Travis Etienne. Il y a toujours James Robinson, quand même, qui a plus de milliards l'an dernier. Et puis, mine de rien, il y a quand même quelques receveurs qui se tiennent bien. DJ Chark, Marvin Jones, Laviska Shenault, qui pourraient progresser. Il a du matos, quand même, Trevor Lawrence.
Tout à fait. Alors, tu parlais de l'exploit de receveur. Alors, ça peut paraître anodin, parce que ce n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'on a vu en plus... quelques vacances communes de la part de Trevor Lawrence et de ses nouvelles cibles. Donc, ça permet aussi également d'améliorer déjà l'ambiance un petit peu en interne, ce qui n'est pas plus mal pour faciliter un petit peu son arrivée. Peut-être aussi dédramatiser un petit peu la chose. Forcément, Trevor Lawrence, on l'a présenté en tout cas très longtemps pendant le processus draft comme la nouvelle pépite, le nouveau franchise quarterback qui va marquer l'histoire de la Ligue, etc. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est très sexy sur le papier, aux côtés d'Urban Meyer, en effet, qui a une grosse expérience college football. On l'a dit, plusieurs championnats nationaux remportés chez les universitaires avec des universités différentes en plus. Donc, c'est quand même pas tout à fait anodin. Après, il y a forcément ce syndrome du coach de college football qui doit faire la transition en NFL. On a vu que Nick Saban, l'excellence même du college football, s'est cassé les dents en NFL durant son seul passage dans la grande ligue du côté de Miami. Donc voilà, mais il y a quand même cette vision défensive que peut apporter Urban Meyer avec justement ce casting offensif beaucoup plus sexy symbolisé par les deux stars de Clemson que sont Trevor Lawrence et Travis Etienne. Une ligne offensive qui était déjà quand même assez cohérente l'an passé, malgré tout, même s'il y a un gros point d'interrogation sur le poste de left tackle. Je ne sais pas trop si on va développer là-dessus, mais en tout cas, voilà, ce sera forcément une donnée à prendre en considération, surtout quand tu changes de quarterback. Mais voilà, c'est sûr que techniquement, les Jaguars, pendant l'intersaison, ont vraiment décidé, a priori, de mettre un gros focus sur le secteur offensif, même si en termes de points, c'était aussi calamité en attaque qu'en défense. Ils ont vraiment voulu rendre cette attaque plus séduisante. Et sur le papier, en tout cas, il y a des armes, je rejoins ce que disait Lucas, pour très clairement au moins quadrupler la mise de la saison passée.
Alors, on dit que les skill players offensifs, on met ça dans les facteurs qui pourraient faire qu'ils peuvent gagner. Puisqu'on va décomposer comme ça ces previews, ce qui permet qu'ils peuvent gagner, pourquoi ils peuvent perdre. Je ne vous ai pas rappelé la structure, c'est vrai en début d'émission. Pourquoi ils peuvent gagner, pourquoi ils peuvent perdre, facteur X pronostic, hein, c'est la structure de ces previews. Donc, pourquoi ils peuvent gagner, il y a ces skill players. Le left tackle, tu t'en as parlé, c'est Cam Robinson au moment où on se parle. Lucas, est-ce que c'est plutôt un des points négatifs de cette équipe ou est-ce que justement on est sur un gros point d'interrogation?
On est sur un point d'interrogation. Après, moi, je m'ai noté la ligne offensive. Je l'ai noté dans les facteurs qui peuvent les faire gagner. Oui, il y a ce point d'interrogation avec Robinson, mais il y a une ligne offensive qui est quand même correcte. Alors, Cam Robinson, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation, mais tous les autres titulaires devraient revenir. Il y a une ligne, il y a l'intérieur de la ligne qui est très solide avec le centre et les deux gardes, et Jekan et Andrew Norwell. On sait que pour un quarterback, c'est important. Qui plus est, un quarterback rookie. On peut demander à Joe Burrow l'année dernière. On risque d'en parler un peu plus tard. Mais voilà, ça fait du bien quand on est quarterback et qu'on arrive de college et qu'on arrive en NFL d'avoir une bonne ligne, une ligne solide, même si c'est vrai que le left tackle, ça peut être un gros point d'interrogation. Mais je le laisse quand même dans les facteurs qui peuvent permettre aux Jaguars de gagner.
Alors, l'attaque, on en a largement parlé. Est-ce qu'on est dans un cas où on a blindé l'attaque parce que ce n'est pas le secteur du coach, et on a un espoir que le coach, comme il est d'esprit défensif, arrive à se débrouiller avec ce qu'il avait du côté défensif, grosso modo. C'est ce que tu avais l'air de dire, Grégory.
Oui, bah, en tout cas, encore une fois, ce qui transpire de ce qui a été mis en place par le nouveau front office des Jaguars, symbolisé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, par Trent Baalke, l'ancien general manager des Niners, c'est sûr qu'en tout cas, on va instaurer une grosse rotation, notamment sur le premier rideau dans cette équipe des Jaguars. Alors moi, c'est vrai que ça peut paraître un peu sévère de le mettre dans le domaine de ce qui peut les faire perdre, mais j'ai quand même un peu peur que ça puisse occasionner un léger tâtonnement. Ils ont l'avantage, malgré tout, on allait peut-être revenir là-dessus, d'avoir une division qui reste quand même abordable, surtout après les dernières nouvelles de blessures en provenance de l'Indiana. Mais en l'occurrence, c'est vrai que Il y a eu beaucoup de choix fait lors de la free agency sur la ligne défensive, sur le poste de cornerback, etc. Mais sans vouloir leur faire un jeu, il y a beaucoup de choix qui ressemblent à des choix un peu mouchoirs. C'est-à-dire que voilà, bon bah si ça fait l'affaire sur cette semaine-là, tant mieux. Un petit peu ce qu'avait fait par exemple Joe Judge avec les Giants l'année passée. On a l'impression que c'est une première année où on va avant tout chercher à construire. Et c'est vrai que défensivement, certes, Urban Meyer a cette vision un peu plus défensive mais c'est pas, ça a jamais été un coordinateur défensif énormément réputé, même dans les rangs universitaires. Et Joe Cullen, qui est le nouveau coordinateur défensif et ancien coach de ligne défensive des Ravens, arrive pas non plus avec une grosse expérience quand il s'agit de drafter les escouades en règle générale. Donc c'est vrai que ce mélange, on va dire, de ce manque d'automatisme et ce côté, on va dire, un petit peu comme les Texans à faire un gros melting pot pour voir si éventuellement la sauce va prendre, ça peut être à leur détriment, notamment en début de saison. Après, voilà, si la sauce prend, ça peut monter en régime au fil de la saison.
Alors, juste une petite curiosité, un choix mouchoir, c'est-à-dire jetable, en fait.
Tout à fait.
D'accord.
Merci juste de préciser ma pensée.
C'était juste pour être sûr. Très bien. Donc, après, en effet, tu manies le féminisme. Ils sont quand même 31e sur les yards autorisés, 31e sur les points encaissés l'an dernier. Ils recrutent quelques mecs utiles, mais pas non plus de superstars. A priori, la défense est la grosse faiblesse de cette équipe, Lucas.
Ouais, exactement. Bah, on parle des facteurs qui peuvent faire gagner, on peut parler des facteurs qui peuvent faire perdre, comme vous êtes en train de le faire. Et en effet, la défense, vraiment, je suis pas convaincu. Greg, tu parlais de choix mouchoir. En effet, c'est vrai que voilà, il y a Shaquille Griffin qui arrive au poste de cornerback. C'est un peu la recrue star. Pourquoi pas? Je pense que de toute façon, ils espèrent même pas qu'il soit le numéro un, puisqu'ils ont drafté leur cornerback l'année dernière. Bon, ils espèrent que ce sera lui le numéro un. Donc, il arrive en tant que numéro deux. Ça peut être un très bon numéro deux, mais c'est vrai que c'est pas une star. Tu parlais de la ligne défensive, le front seven. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de recrutements sur cette défense. On va espérer que Urban Meyer fasse de la magie un petit peu, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, la défense, elle fait pas peur. Il y a peu de talent. Je vois pas beaucoup de joueurs où quand je regarde la depth chart, je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a celui-là, c'est vrai qu'il y a lui. Voilà, il y a Miles Jack. Mais c'est pas non plus, il est un peu tout seul. Donc c'est vrai que ça me fait, voilà, me convainc pas et presque elle me fait peur. Alors, on parlait de l'attaque. Est-ce que l'attaque va réussir à mettre plus de points qu'en prendre? De toute façon, quand une équipe elle part comme ça de si loin, on peut pas tout changer en une intersaison. C'est très difficile. Donc je pense que d'avoir travaillé sur l'attaque, c'est pas mal. Et puis on va espérer que la défense soit moins pire que l'année dernière.
Il y a Josh Allen aussi. Tu parlais des noms. Alors, il y a quand même un jeune pass rusher. Josh Allen,
c'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs, voilà, c'est vrai qu'il y a Josh Allen,
Pardon. Ouais.
Il y a Anderson aussi, le cornerback, CJ Anderson, si je ne me trompe pas, ouais. Donc, qui est d'ailleurs sur la liste Covid, il me semble. Donc bon, normalement, ça devrait, on espère pour lui, pas durer très longtemps, en tout cas, il pourrait jouer la saison. Mais c'est vrai que les joueurs de talent, en tout cas les plus grands talents de cette défense, sont pour l'instant jeunes, et donc du coup, pour cette saison, ça paraît juste.
Le facteur X de cette équipe, on a couvert pas mal de choses. Donc, parmi tout ça, qu'est-ce qui vous apparaît comme étant le facteur X, Grégory?
Bah, je vais continuer. C'est pour ça. Bon, ça m'embête un peu d'avoir coupé la parole de Lucas, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, facteur X, on peut mettre en effet le pass rush et Josh Allen dans ce syndrome défensif où en effet, on a beaucoup d'interrogations sur cette D-line. C'est sûr que le poste de linebacker, en effet, avec un joueur comme Miles Jack, c'est séduisant, mais si c'est pour eux de toutes parts, ça va pas servir à grand chose au final. Donc c'est vrai que pour solidifier avant tout ce premier rideau et pour être beaucoup plus agressif dans les tranchées, je pense que le pass rush est plus spécifiquement un Josh Allen aussi transcendant que ce qu'on avait vu notamment lors de la campagne 2019, ce sera pas une mauvaise chose pour les Jags. Donc voilà, je suis parti dans cette direction. En l'occurrence, 10 sacs et demi, on le rappelle, en 2019, et 2 sacs et demi seulement entre guillemets l'an passé, même si on rappelle qu'il a joué seulement la moitié des rencontres.
Lucas, facteur X.
Le facteur X, bah, en fait, moi je vais parler du coach. Peut-être qu'à l'inverse de Greg, je le connais un peu moins bien. Donc j'attends de voir ce que ça va donner à l'échelon supérieur. Greg en a parlé, il a gagné en college football, il a gagné plusieurs titres avec des équipes différentes. Maintenant, on sait, et il l'a dit très bien en début de cette passe-ci, que la transition, elle n'est pas évidente. Et il fait une transition en plus avec un quarterback qui va faire lui-même sa transition. Il y a souvent des coachs qui arrivent de college football et qui ont déjà fait des postes de coordinateur défensif, offensif en NFL, qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne. Je ne doute pas que Urban Meyer connaît le fonctionnement NFL, puisque bon, je suppose qu'il a des connexions, mais d'y être, c'est différent. Et lui, il n'a jamais été coordinateur ni offensif ni défensif en NFL. Donc, c'est vraiment son premier poste. Donc, voilà, on sait que ce n'est pas évident. Et il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Matt Rhule l'a fait l'année dernière. Il finit avec 5 victoires seulement, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est ça le facteur X avec un nouveau staff. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va réussir à prendre la mesure de cette ligue professionnelle? J'attends de voir.
Écoutez, on va être complémentaire. Moi, on l'a mis et je suis assez d'accord avec vous hein, sur le fait que c'est une qualité d'ensemble, mais je vais quand même prendre la ligne offensive parce que je ne crois pas beaucoup dans la défense. Donc, pour moi, c'est plus la qualité de la ligne offensive qui va jouer. Ils ont autorisé quand même 44 sacs l'an dernier. C'était 25e en NFL. Il y a eu des problèmes de blessure. Ils n'ont pas non plus une profondeur folle. Je pense que si ça marche, pour le coup, pourrait y avoir une attaque intéressante qui va leur faire aller chercher quelques matchs. J'ai plus de mal à croire dans la défense. Donc, je vais plutôt prendre la ligne offensive comme clé pour aller en chercher quelques-uns. Le pronostic, d'ailleurs, je me demande, on va peut-être faire un peu comme l'an dernier, un pessimiste à un optimiste pour les pronos, ou en tout cas, essayer de trouver une fourchette. En plus, je vous donne le calendrier. Ça va commencer à Houston. Bon, ça déjà, c'est pas trop mal. Ensuite, donc Denver, Arizona, à Cincinnati, Tennessee, Miami, semaine de repos en semaine 7. Ensuite, ils jouent à Seattle contre Buffalo, à Indianapolis. Ensuite, ils reçoivent les 49ers et les Falcons. Ils vont aux Rams, aux Titans. Ils reçoivent Houston. Ensuite, chez les Jets, chez les Patriots. Et ils reçoivent Indianapolis pour terminer. On le rappelle, donc ce sera en semaine 18, puisqu'il y a 17 matchs à partir de cette année. Combien de victoires pour cette équipe de Jacksonville? Je vais y arriver. J'étais en train de me dire qu'on compte les victoires avec le bas du tableau et à la fin des previews, on comptera les défaites. On dira combien ils peuvent en perdre. Donc là, combien ils peuvent en gagner? Houston au début, c'est pas infaisable.
Non, bah même retour hein, en l'occurrence, qui commence par Houston à l'extérieur. Donc si tu prends cette logique-là, non. Alors je sais pas si je vais être hyper optimiste par rapport à ce qu'a dit Lucas tout à l'heure, mais je les vois quand même au moins peut-être à 6-11.
6-11 pour Greg.
Ça me paraît pas mal.
Lucas, donc toi, tu as dit 5, non?
Moi, j'étais pas là l'année dernière, donc je sais pas si je suis un optimiste ou un pessimiste. J'ai l'impression de passer un test de personnalité, donc je sais pas, vous allez me dire. Moi, je vois 5-12, donc j'ai l'impression d'être ni l'un ni l'autre.
Eh ben, j'ai 5-12 aussi. Donc, alors, c'était pas par rapport à chacun, mais c'était de donner un peu, si tu veux, le meilleur scénario et le pire scénario. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, la ligne marche, Urban Meyer arrive à faire des choses avec la défense et ils peuvent aller en chercher combien?
Si tout fonctionne, si l'attaque fonctionne et qu'Urban Meyer est ce génie défensif, en tout cas cet esprit défensif qu'il est censé être, ça peut aller ouais, au moins 6, 7, allez 8, 8, 8, ça marche plus, 8, 9, 8, 9, j'ai pas exactement le classement en tête, mais enfin le calendrier pardon en tête, mais 8, 9, Greg l'a dit, la division est pas non plus exceptionnelle. Si tout fonctionne, c'est-à-dire que si tout fonctionne dans leur équipe et en plus tout fonctionne pour eux dans les équipes adverses, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir des blessures à Indianapolis, à Houston, on ne sait pas exactement ce qui se passe et s'il n'y a pas le quarterback qu'on attend ou qu'on n'attend plus, ça peut aussi faire deux victoires pour les Jaguars. Donc si tout va dans le... Ah oui, si on réfléchit de manière optimiste, allez, je dirais 7.
C'est vrai que le calendrier n'est pas affreux parce qu'en dehors de leur division, il y a Denver, il y a Cincinnati, il y a New York, donc les Jets, il y a Atlanta, il y a des équipes qui sont quand même tout à fait... qui ne sont pas des ténors de la NFL actuellement. Et donc dans le pire des cas... Ça redescend à 2-3.
Oui, ouais, 2-3, deux fois plus que l'année dernière.
Parce que déjà, il double. Greg, tu n'as pas l'air tout à fait d'accord. Tu les vois un peu plus haut, le
plan? Non, bah, franchement, si ce n'est pas bon du tout. Moi, j'avoue, en pire scénario, j'avais dit au moins 6 globalement, mais je les vois quand même peut-être au pire des scénarios à 4. Franchement, si ça se goupille bien, ça peut être une équipe surprise qui claque 9-7 et qui se bat pour la division. Hein. Je suis pas loin de le penser, mais ça dépendra encore une fois, comme l'a dit Lucas, de beaucoup de paramètres, notamment chez les Colts et les Titans, qui apparaissent a priori comme les deux principaux concurrents des Jags dans cette possible idée que Jacksonville soit candidat au playoff.
9-7, il manquera un match, par contre. Hein. Je vous coupe, mais 9-7, il manquera un match. Il faut qu'on s'y habitue, je te dis ça, parce que moi aussi, je ne m'habitue pas au bilan.
J'ai dit 9-7
ouais, non, mais je te le dis.
Il me semblait avoir dit 9-8. Aussi, d'accord, pardon.
Moi aussi, j'ai du mal, il manque un match à chaque fois.
La renaissance est donc en marche du côté de Jacksonville. C'est la fin de cette preview des Jaguars. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TDA parfois, parce que là, c'est le même. C'est Lucas qui a fait la preview des Jaguars sur le site. Mais n'hésitez pas à aller la lire. Évidemment, il y a plein de précisions et puis ça permet de bien voir le calendrier, de bien voir plein de choses. Pour nous suivre, TD Actu sur Twitter, Facebook, Touch en Actu en entier sur Instagram et évidemment tdactu.com, c'est le site. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Lucas et à demain.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.